Cascodeur Podcast, épisode 243. Interview SRE avec Nicolas Erlinger et Maxime Brugidou. Enregistré le 12 novembre 2020.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Aujourd'hui, c'est une interview et nous allons discuter d'un acronyme SRE. On va expliquer ce que c'est. Et puis, pour parler de ça, j'ai Nicolas et Maxime. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, je vais laisser vous expliquer qui vous êtes en une, deux minutes chacun. Nicolas,
ouais,
d'abord, peut-être.
Ouais.
On te connaît un peu, ta voix. C'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première fois. Je m'appelle Nicolas Erlinger et je suis en charge du département SRE, donc Site Reliability Engineering, chez Criteo. Je travaille dans cette société depuis 7 ans maintenant et ce département fait aujourd'hui 140 personnes.
D'accord. Pour une taille de combien de la boîte, si c'est public ?
La boîte, on a un peu moins de 3000 personnes au total, et la R&D, on est un gros poil plus que 500.
D'accord. Donc là, on parle de entre un cinquième et un quart, en fait.
Ouais, c'est l'ordre de grandeur.
La taille de la R&D.
Tout
d'accord.
À fait.
Maxime.
Oui, donc bonjour, Maxime Brugidou. Je suis manager chez SRE dans l'équipe de Nicolas, donc chez Criteo. Je m'occupe des équipes core de la plateforme de Criteo. Donc, c'est toute la plateforme de compute et de stockage, donc les systèmes de conteneurs, que ce soit Kubernetes, Mesos ou Hadoop, les file systems distribués comme HDFS, les bases de données, que ce soit SQL ou relationnelles, les systèmes de streaming avec Kafka et tout ce genre de choses. Toute la plateforme d'infrastructure cœur utilisée par tous les développeurs de Criteo.
Ouais, très très infra du coup, très très bas niveau.
Effectivement, je suis très infra.
D'accord. Alors, SRE, de ce que j'ai compris, c'est pour mettre 50% de bonus dans le salaire d'un sysadmin, ça sert à ça. C'est ça ? C'est ça la définition ?
Ah, t'es dur.
Non, 50%, ce serait pas mal. Ouais.
Ok, donc tu as dit Site Reliability Engineer, c'est pas hyper parlant, donc explique peut-être un peu le contexte.
Ouais, alors c'est un terme qui a été créé par Google au moment où ils ont commencé à sentir que leur truc allait devenir gros. Enfin, vu le projet de faire des recherches sur Internet, ils savaient que ça allait venir assez vite. Et en fait, c'est Ben Traynor qui est chez eux depuis un sacré moment, qui à un moment a voulu sortir des modèles d'administration, pas que système, mais d'infrastructure logicielle d'une manière générale traditionnelle. Et en gros, alors ses propos à lui, c'est SRE, c'est ce qui se passe quand tu donnes l'administration système à faire à des développeurs. Ils ont fait tout un bouquin là-dessus pour dire que voilà, chez nous c'est plus l'approche de les méthodologies nouvelles, en particulier le source control, l'automatisation, faire du développement de l'infrastructure as code et tout ça. On reviendra sur ces termes-là après. Hein, mais nous c'est plus au-delà d'avoir des développeurs qui s'occupent d'administration système, c'est prendre toutes les bonnes méthodologies agiles. Développé que dans le monde du logiciel et en faire une force pour tout ce qui est gestion d'infrastructure matérielle. Alors ça commence SRE chez Criteo, ça commence par ce que disait Maxime tout à l'heure, à savoir l'infrastructure logicielle et la gestion de beaucoup de machines vu notre métier, mais ça comprend également tout ce qui est intégration continue, déploiement continu, observabilité, les outils qui vont avec. La partie big data, donc pas que l'infra, mais aussi tout ce qui est analytics avec des outils comme Vertica, Tableau, Presto. Et on a même fait un dérivé de SRE particulier à la façon dont on fonctionne nous en interne, qui s'appelle Product Reliability Engineering. Et donc là, on est des équipes d'expertise opérationnelle pas que de support, mais aussi de développement dans les produits. Sur certaines verticales, on a voilà 4-5 verticales chez Criteo, et on a des équipes qui sont dédiées à certains secteurs. Alors, nos verticales vont pas parler à des gens, donc je vais prendre un exemple pour le coup chez Google. Il y a une équipe dédiée SRE pour le produit YouTube. C'est-à-dire que si on a que des équipes transverses quand les entreprises grandissent trop, à ce moment-là, ça devient impossible d'être capable d'être en support ou en expertise, que ce soit performance ou mise en place d'infrastructures logicielles sur l'ensemble des secteurs. Et ben nous aussi, on a briqué. Et donc, on a une équipe qui est spécialisée dans la partie extranet pour les clients, par exemple, et qui travaille main dans la main avec les gens qui développent le produit.
D'accord. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on lit le livre de Google, c'est pas hyper clair d'ailleurs, mais enfin, c'est l'impression, c'est qu'effectivement, en gros, pour chaque produit, il y a une équipe SRE, et après, par produit, il y a des produits qui sont visibles aux gens, et puis il y en a qui sont moins visibles, du genre plus infrastructure. Mais de ce que toi tu dis, il y a plutôt un pool SRE qui peut être assez transverse, mettons entre les produits. Et sauf certains produits qui ont une taille qui demande des équipes dédiées. C'est un peu comme ça que vous avez fait évoluer le modèle, c'est ça pour vous?
Ouais, c'est un peu comme ça. En fait, il y a des fonctions qui sont transverses, c'est-à-dire que tu n'as pas envie que chaque projet ou chaque verticale se repose la question de où est-ce que je pose des composants d'infrastructure dans les data centers que j'ai ou dans les instances cloud. Nous, on a beaucoup de on-premise un peu de cloud dans plein de clouds différents. Mais t'as pas envie que chaque projet reprenne feuille blanche sur des trucs que tu sais que qui vont revenir. Voilà, comment t'installes. On va pas installer un cluster Hadoop par vertical. On fait du multi-tenant. Ça, c'est intéressant d'avoir des fonctions transverses. Mais par contre, effectivement, la spécificité de chacun des projets qui est plutôt du back, plutôt du front, plutôt tel techno en particulier qui est cœur sur comme composant technologique de tel projet, là t'as envie d'avoir des équipes qui se concentrent sur une certaine verticale et qui assurent une fluidité plus importante que d'avoir des verticales produits qui parlent à des équipes, alors je vais dire très génériques ou trop génériques, mais de leur point de vue, quoi.
Je pense qu'il y a un autre truc qui est intéressant, et en fait je pense que t'as repéré dans le bouquin de Google, Emmanuel, c'est que chez Google, à mon avis, ils sont tellement qu'ils ont des équipes de développement dédiées même aux produits d'infrastructure interne. Donc, par exemple, nous, on utilise par exemple Hadoop. On installe Hadoop, on configure Hadoop. On développe pas Hadoop nous-mêmes, même si on le patch de temps en temps. Donc, on n'a pas besoin d'une équipe de développement et une équipe produit dédiée à Hadoop. Et c'est pour ça que nos équipes SRE Hadoop font un peu le développement du produit, enfin l'installation et la configuration du produit, et la partie vraiment SRE qui est fiabilisation et opération.
D'accord. On en parlera un tout petit peu après, mais en fait, la question que j'avais derrière, c'est que, en fait, ça ne me choque pas que vous traitiez Hadoop comme un produit, enfin oui, comme un produit au final. Quelque part, c'est une infrastructure critique pour vous, et du coup, voilà, il y a un certain nombre de gens qui sont dédiés à le garder allumé. Mais ma question c'était, est-ce que vous avez entre guillemets des SRE généralistes qui sont capables de gérer tel produit et tel produit, et en fait quand ils ont un problème ils vont vers l'équipe d'ingénierie plus spécifiquement, mais en gros ils sont pas spécialisés du matin au soir sur un aspect, ou est-ce que vous essayez de garder la spécialisation?
Alors, clairement les équipes PRE, donc Product Reliability Engineering, c'est clairement leur vocation. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une spécialité dans le secteur dans lequel ils opèrent en face de la verticale, mais derrière, quand ils ont besoin de composants spécifiques ou d'expertise spécifique sur un des axes, ils se retournent vers les autres équipes SRE transverses pour collaborer et apporter la bonne valeur dans l'axe du produit. Ça fait un pont intéressant entre les deux directions, quoi.
D'accord. OK. Alors... Donc, site, c'est parce que à la base, Google, c'était un site. Donc, c'est un site web. En fait, ça n'a pas de rapport avec un site physique, de ce que je comprends. Reliability, ben, c'est effectivement que ça reste, enfin, que ça soit dispo le plus possible. Puis, engineering, c'est effectivement, comme tu disais, eux, ils voulaient amener des approches d'engineering au problème. On va peut-être en parler d'ailleurs. C'est donc pourquoi SRE et pourquoi c'est pas Ops et Dev, voilà, séparé comme avant. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin de mélanger un peu ces deux composantes pour vous, Maxime? Bah, peut-être.
Alors moi je dirais que déjà c'est pas juste qu'on en a besoin, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix. Faire des opérations aujourd'hui, même à une échelle, on va dire, de petite entreprise, avec le niveau de complexité qu'ont atteint nos outils, il faut savoir faire du développement. Et inversement, un bon développeur, s'il a besoin de faire tourner quelque chose en production, il faut qu'il maîtrise un petit peu comment fonctionnent les systèmes en dessous. Donc, pour moi, la dichotomie ops versus dev n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Donc, d'accord. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, on a atteint des échelles, en plus de ça, à Criteo particulièrement, où on a plus de 50 000 machines qu'on doit gérer, automatiser et faire fonctionner 24/7, où on peut pas se permettre de faire de l'ops traditionnel comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années.
Bah si, faut embaucher les mecs qui jouent à StarCraft là, et puis tu as un clic par minute extrêmement élevé, puis tu compenses. Donc effectivement, c'est enfin pour ceux qui savent pas, l'idée derrière le remettre de l'ingénierie, pas forcément des ingénieurs, mais de l'ingénierie dedans, c'est de scaler en nombre de machines, enfin le nombre d'hommes de manière logarithmique par rapport au nombre de machines. C'est-à-dire, on va pas faire x2 en nombre de personnes pour gérer x2 nombre de machines ou x2 nombre de services. C'est ça l'idée fondamentale.
Google savait dès le départ que ça marcherait pas. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient vers l'infini et au-delà, et ils savaient qu'en termes de compétences d'hommes qu'ils pourraient mettre à disposition sur le sujet, ce serait pas le cas. Donc ils ont pris le truc à bras le corps. C'est clairement l'intention derrière.
Moi, je fais une c'était financier assez... ou c'était connaissance, tu crois?
Pardon.
Enfin, tu crois que c'était justement un problème de nombre de gens compétents sur la planète ou un problème financier?
Alors, je sais que dans le bouquin, ils en parlent. Ou peut-être une présentation de Ben que j'ai vue, où clairement, ils disaient la capacité d'embauche. Enfin, en gros, ils rajoutaient plus de serveurs, plus rapidement des serveurs qu'à trouver les gens. Pas qu'ils existaient. D'accord. Pas forcément, mais en plus, enfin, le processus d'embauche allait pas assez vite. Et donc, forcément, à un moment, les courbes allaient se décrocher. Puis même, tu vas pas essayer d'avoir une progression linéaire sur ces choses-là. Non, c'est pareil chez Criteo, parce que on est passé de en 8 ans de moins de 1000 machines à 55 000, je crois, aujourd'hui, enfin à la fin de l'année. Et si on avait scalé le nombre de personnes, enfin juste, ça aurait été et financièrement et administrativement très très compliqué. Quand je dis on est 140 aujourd'hui sur la partie SRE, donc c'est en plus de nos collègues de la partie infrastructure matérielle, parce que comme on est on-premise, on gère nos data centers nous-mêmes. Donc les gens on disent « Ah, vous êtes beaucoup, quoi, c'est une grosse équipe ». Alors après, il faut se rendre compte des braquettes, parce que d'un côté on dit on scale pas le nombre de personnes, mais là je dis on est 140 plus 45.
Attends, je vais te channeler Guillaume là. Il parle bien de braquettes, non pas de braguettes.
Ouais. Ouais.
Désolé, c'est le matin, on se chauffe. Hein.
Monsieur Lafort, enchanté de ce corps. Et donc on a l'impression qu'on est beaucoup, mais je vais prendre sujet par sujet en fait. On a dans une des équipes de McKim s'occupe des deux clusters Hadoop qu'on a aujourd'hui, et on a en capacité de stockage brut un demi exabyte, c'est 500 péta de disque, donc c'est des milliers de machines, et l'équipe elle fait entre, selon les époques, entre 5 et 10 personnes max, quoi. Et en fait c'est ça l'effet. Si t'as pas les outils, l'outillage, tu peux pas le faire. Et en fait, sur chaque sujet, je vais prendre l'équipe NoSQL, toujours chez Maxim. Ils s'occupent du reste de gros volumes, plutôt eux côté front, dans les bases de données NoSQL. Ils ont 4000 nœuds sur Kubernetes pour faire du Couchbase, par exemple. Et l'équipe, elle fait 5 personnes. Et donc, tu fais pas ça si t'es pas très outillé avec des outils d'industrialisation, d'automatisation, d'observabilité de ce qui se passe. Tu peux pas mettre quelqu'un qui regarde des courbes sur un outil comme Cacti, des courbes de chaque machine pour voir s'il se passe quelque chose. Donc, c'est une obligation vu la mission. Et donc moi, je fais une distinction très nette entre la méthodologie DevOps, qui est effectivement, comme Maxime le disait tout à l'heure, l'effacement des barrières strictes entre les deux métiers, qui est indispensable pour chacun des métiers de bien comprendre l'autre, et SRE, qui pour moi est plus de l'ordre de la mission et de la fonction, qui est d'assurer des systèmes, de l'opérabilité, de l'excellence d'opérabilité de ces systèmes-là à une échelle importante avec une équipe qui peut pas, elle peut pas comporter des milliers de personnes. Et je vais rendre hommage au passage à nos collègues de l'infrastructure matérielle où on dit on a 55 000 serveurs dans le monde et pour gérer tout ça, chez Infra, il doit y avoir une vingtaine de personnes qui s'occupent vraiment du côté achat, livraison, mise en place du matos, quoi. Derrière, il y a les gens du réseau et après, il y a les gens qui s'occupent des premières couches OS et driver. Et donc, 55 000 machines déployées, gérées, industrialisées avec une équipe de 15-20 personnes. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'ils font.
D'accord. Alors, je vais zoomer sur un truc parce que t'as différencié DevOps et SRE.
Ouais.
Du coup, j'ai deux sous-questions, je crois, derrière, là, avant que j'oublie. La première, c'est est-ce que SRE, c'est limité à des gens qui commencent à parler de milliers de machines ou est-ce que, comme Maxime, tu disais un petit peu avant, à un moment, même pour des petites boîtes ou des boîtes à taille moyenne, ça devient important. Alors, et la deuxième, c'est alors juste parce qu'après, je sais que je vais oublier. La deuxième, c'est DevOps. Du coup, on sera trois, donc si on ça fait de la réplication. La deuxième, c'est DevOps. Attendez, ça y est, je suis perdu. Oui, DevOps, ça veut un peu dire dans une même équipe, j'ai du dev et des ops. Mais là, SRE, on dit voilà, vous êtes manager d'une fonction qui est séparée de l'équipe engineering au sens développement. Donc voilà, elle est où la... C'est intéressant, on va essayer de comprendre pourquoi du coup.
Alors juste sur la première question, j'ai dit effectivement que même dans une petite structure, on avait besoin d'avoir pour moi un minimum de DevOps aujourd'hui, surtout dans le monde moderne avec les outils actuels. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a forcément besoin d'une équipe SRE, enfin tout dépend de la taille de l'équipe et de type de problématique effectivement. Le besoin d'une équipe dédiée pour moi il vient quand à partir d'une certaine taille, quand je dirais en nombre de développeurs surtout et de certains besoins de fiabilité ou de performance. Il y a peut-être certains types de produits qui ont plus besoin de fiabilité que d'autres et où investir dans du SRE dédié a plus de sens.
D'accord. OK. Alors, on va parler du quotidien d'une personne qui est SRE. Alors, vous êtes manager. Alors, vous cliquez sur les emails, c'est ça, mais il faut regarder votre calendrier. Mais sinon, la journée type d'un SRE. Désolé. Hein,
Ah non, on joue au golf quand on n'est pas en confinement.
Ouais. Tu peux faire du golf tout seul, t'es peinard. Non, mais ce que tu dis est caricatural, évidemment. Et alors, Maxime, encore plus que moi, garde quand même une connaissance et un suivi des sujets techniques où, effectivement, moi, en tout cas, je commit plus de code en prod depuis un moment et c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai d'autres choses à faire. Enfin, mon métier, c'est pas celui-là. Mais par contre, techniquement, besoin d'une connaissance pour piloter, cadrer, prendre des décisions pas faciles, de choix de techno, d'orientation de projet, de challenge, de comment les projets sont architecturés. Malgré tout, on garde une très bonne connaissance, en particulier dans tout ce qui est système distribué.
Et sur cette parenthèse-là, d'ailleurs, comment tu fais pour rester attaché à la terre et puis
Moi j'ai parlé pour ma part, tu vois, c'était il y a un an et demi maintenant.
Ouais.
J'ai fait ce qu'on appelle le machine learning bootcamp chez Criteo, donc c'est quelque chose qui est animé par nos collègues des Criteo AI Lab, donc des laboratoires d'intelligence artificielle, où ils font, alors il y a deux formats, soit un sprint de 2 semaines avec des cours et des TD, soit le sprint plus un projet derrière. Alors moi, en tant que manager, je pouvais pas me permettre de disparaître de mes fonctions de management auprès de mes équipes pendant un quarter, donc j'ai fait le sprint de 2 semaines, et j'ai passé 2 semaines à faire les cours le matin avec des maths et du Python en mode machine learning, pilotage de modèles d'apprentissage multidimensionnel et mise en application l'après-midi. Donc ça m'a bien fait suer le cerveau, comme en études supérieures, et ça m'a remis. Moi, je l'ai fait surtout pour comprendre quelles étaient les problématiques et le métier de mes clients, parce que c'est un des gros clients des infrastructures qu'on fait. Et puis pour mettre vraiment les doigts dans l'opérationnel, mais pourquoi ils font du Python, c'est quoi leur problématique et quel est le problème qu'ils essayent de faire rentrer, quel est le problème rond qu'ils essayent de faire rentrer dans le carré des choses qu'on s'est proposées. Et donc voilà, ça c'est une des méthodes. Après, le suivi des, on a une méthodologie de kick-off pour les projets qui est assez détaillée techniquement. Et donc là, ça permet de dialoguer avec les gens sur savoir pourquoi les choix sont faits, comment ça se passe. Et ça permet vraiment, en tout cas pour moi, de mon point de vue, de garder le touch avec. Et troisième axe, on se rechallenge beaucoup sur les choix qu'on fait, que ce soit tu vois, on-premise versus cloud, on fait des études avec différents providers pour savoir si on est toujours pertinent à faire les choses comme on fait aujourd'hui, enfin, de 6 mois en 6 mois. Et pareil sur, tu vois, une techno de data nouvelle où on se dit, il faudrait tester pour voir comment ça se comporte par rapport à ce que l'on fait en interne, avoir du feedback sur quelles sont les problématiques, les points levés, quelles sont les limites comptables par techno, ça permet de vraiment garder le contact.
Moi, de mon côté, c'est bon, il y a effectivement beaucoup de choses qui rejoignent ce que dit Nicolas. Après, je manage un scope plus réduit, donc c'est un petit peu plus facile d'avoir les pieds sur terre. Notamment, le fait que je dois de temps en temps coordonner de gros incidents où c'est moi-même qui coordonne plusieurs équipes et donc je dois être un petit peu au fait de. Et j'apprends au fur et à mesure des incidents comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent certains composants que je connaissais pas. Il y a aussi le fait que pour des raisons personnelles, de motivation personnelle, j'aime bien coder ou j'aime bien toucher à des choses moi-même. Donc je passe de temps en temps un peu de temps sur un projet annexe qui m'intéresse. Après, ça aboutit ou pas à quelque chose d'utile, ça dépend des fois. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc de toute façon, j'apprends que ce soit des nouvelles technologies, un nouveau langage ou juste. Ajouter une nouvelle fonctionnalité que je pense importante, même si elle n'est pas prioritaire.
D'accord. On va fermer la parenthèse, mais pour le challenge, c'est dégager du temps, parce que quand on est manager, on est censé, ou team lead, on est censé être dans l'opérationnel de résoudre les problèmes des gens et d'être à l'écoute, et moins, du coup, pouvoir, comme tu disais, Nico, s'en aller pendant 2 semaines, pour justement faire du plus concret. Donc, c'est un peu le challenge dans ces
Bah,
trucs-là.
en fait, en particulier avec la période Covid, là, quand ça a commencé là, au deuxième trimestre, moi j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai renforcé le fait que mon emploi du temps devait être libre, le plus possible, disponible pour pouvoir être réactif aux problématiques nouvelles qui apparaissent. J'ai renforcé cette disponibilité-là. Je suis généralement assez conservateur de mon emploi du temps pour que justement il y ait des plages où je puisse parler à des gens qui en ont besoin, et c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc j'essaye d'avoir au moins la moitié de mon temps qui est disponible, pas pour moi, mais pour les gens, soit de mes équipes, soit de mes clients. Et là, j'ai renforcé ça avec le Covid, parce que vraiment, je savais pas combien de temps ça allait prendre en impact d'être réactif. Et donc non, un manager, il doit trouver le temps de réserver de la disponibilité pour de la vieille technologique, pour pouvoir passer du temps avec les équipes. Ça, chez nous, ça, il y a un formalisme sur la partie objectif trimestriel, c'est avec le modèle OKR, donc Objective and Key Result de Google, encore une fois, qui permet vraiment de passer du temps à lire qu'est-ce que les gens ont prévu, pourquoi on les fait, et interagir avec chaque équipe pour dire, OK, c'est quoi les challenges, quel est le test, quel est le développement qui vous a fait arriver à cette conclusion-là. Et ça permet aussi de pas être complètement décorrélé des choses. C'est sûr qu'un manager qui est 100% du temps en réunion sur des sujets organisationnels, c'est beaucoup plus dur.
Ok, alors, le SRE au quotidien, la journée type de la personne qui est dans cette fonction, c'est quoi? Donc, il arrive, alors, je sais pas d'ailleurs s'il arrive, bon, mettons que ce soit pré-Covid pour simplifier, mais il arrive le matin, il boit son café, ou est-ce qu'il a déjà bossé parce que c'était la merde avant, mais
Ça
on
dépend.
va voir la journée type. Comment?
Ça dépend s'il était d'astreinte ou pas et si l'astreinte a sonné ou pas.
Voilà, donc explique tout ça un peu.
Bah, en gros, les SRE sont les équipes SRE sont en rotation d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc après, chaque équipe s'organise, organise ses rotations un peu comme elle veut. La plupart des équipes font des astreintes qui tournent en général tous les 1 ou 2 jours. Donc ça veut dire qu'on est astreinte pendant soit 24, soit 48 heures. Ce que ça veut dire quand on est d'astreinte à Criteo, ça veut dire que on peut se faire pager, donc c'est-à-dire que quand une alerte sonne, que ce soit par un système automatique ou par une autre équipe qui décide de nous appeler, on a 30 minutes pour réagir et se connecter au VPN de Criteo. Ce qui se passe après quand on est appelé, ce qui arrive le plus rarement possible évidemment. Quand on est appelé, c'est après on doit suivre le code du travail français, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que la personne ait 11 heures de repos consécutif entre deux journées. Donc évidemment, si on prend une journée type et que quelqu'un a été appelé à 2 heures du matin, ça va pas être possible de retourner au bureau avant 1 heure de l'après-midi. Donc,
d'accord.
Ça, c'est déjà le début. Donc admettons que la personne n'ait pas été appelée ou ne soit pas d'astreinte, elle arrive le matin, elle prend son café à l'heure 1 heure... classique de bureau, entre 9h et 10h, on va dire.
Classique de bureau d'ingénieur.
Classique de bureau d'ingénieur parisien, ouais. Donc les horaires sont assez avancés dans le temps. Le truc qui se passe souvent le matin, c'est comme une équipe de développement habituelle, il y a souvent un stand-up quand toute l'équipe est là, qui sont à heure fixe. Après, chaque équipe définit quand est-ce qu'elle organise son stand-up meeting. Le stand-up, c'est assez classique comme chez les développeurs, où en moins d'une dizaine de minutes, on fait le tour de l'équipe pour savoir ce qui s'est fait la veille, ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui et quels sont les potentiels bloqueurs ou les potentiels problèmes qu'on rencontre. Donc ça va être la base. Ensuite, il y a un autre rôle qui est important, particulièrement chez SRE, dans la journée. C'est ce qu'on appelle l'interrupt. C'est la personne, ça peut être une ou plusieurs personnes, qui va être le point de contact pour toute demande de support dans la journée. Donc c'est une personne qui doit... Alors c'est moins contraignant que l'astreinte. Ça peut être la même personne qui est d'astreinte et d'interrupt. Après, ça dépend des équipes. C'est moins contraignant que l'astreinte, c'est-à-dire qu'on peut partir déjeuner. C'est pas très grave s'il n'y a pas de réponse dans l'heure qui suit. Mais par contre, ça veut dire que c'est la personne qui est responsable de, par exemple, suivre les questions que dans Slack, dans le Slack channel du service ou de l'équipe pour pouvoir y répondre en cas de besoin. Donc cette personne, on fait une rotation aussi sur ce genre de rôle parce que c'est assez contraignant vu qu'on est souvent interrompu et on n'a pas forcément le temps de bosser sur des tickets projets classiques. Et évidemment, tout dépend des équipes. Il y a des équipes où l'interrupt est très chargé et on demande de temps en temps de l'aide d'une autre personne, ou il y a des équipes où l'interrupt est beaucoup plus light et on a plus le temps de bosser sur des projets.
D'accord. Donc l'interrupt, pour rappeler, c'est effectivement, tu es le point de contact qui va, bah, en gros, pas pouvoir, va être un peu comme le manager d'ailleurs, laisser de l'espace pour que les gens puissent venir poser des questions. Et ça protège l'autre équipe pour qu'elle soit plus en mode développement de projet et pouvoir se concentrer sur sa tâche pendant
exactement
une journée ou plus.
Ouais. Et en période pré-Covid d'ailleurs, l'interrupt a souvent un totem visible sur son bureau pour que les gens aillent le voir sans déranger les autres.
D'accord.
Et ça protège aussi un autre truc, ça protège le flot de développement des équipes clientes, entre guillemets. Parce que si, à chaque fois que tu as besoin d'une info, d'un petit changement, de quelque chose qui peut être réglé par une interaction rapide, que ce soit Slack ou je bouge mes pieds, je vais voir les gens quand tu as la possibilité dans le même bureau, ça, si tu peux pas faire ça et que tu es obligé de faire un ticket à chaque fois que tu as la moindre question, la moindre truc, ça complexifie le time to delivery de tout le monde d'une façon complètement démente. Et donc, c'est non seulement un bonus pour l'organisation interne d'une équipe, mais également pour les gens qui interagissent avec ce domaine fonctionnel-là.
Ouais. J'encourage la lecture du livre qui s'appelle Projet Unicorn, The Unicorn Project, qui explique assez bien ça, que en fait, quand on passe tout par les tickets... et qu'il y a une cascade de tickets, voilà comment on a une organisation non fonctionnelle.
Je crois que je l'ai sur mon bureau.
Ouais. Moi, il est virtuel, mais il est sur un disque dur quelque part.
Après, il y a un autre challenge. Bon, l'interrupt, c'est super. Effectivement, ça fluidifie vachement les choses et ça permet d'accélérer le travail des équipes de développement. Il y a l'effet inverse, c'est que quand on est une équipe qui fournit un service qui est très sollicité, où il y a des centaines de développeurs qui l'utilisent, on peut être en permanence assailli de questions. Et là, tout le travail, toute la difficulté est de faire en sorte de documenter le service le plus possible et toutes les questions possibles pour essayer de faire diminuer le nombre de questions et le nombre d'interrupts. C'est vraiment pas évident. Ça dépend aussi vachement des services. Il y a des services où l'interface est hyper claire et donc les questions sont beaucoup plus simples à traiter, et des services où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on peut se retrouver à devoir répondre à des tas de questions qui sont pas forcément directement liées au service, mais à des dépendances ou ce genre de choses. Donc c'est pas forcément évident. Il y a des équipes qui ont beaucoup de mal avec ça, et c'est un gros challenge qu'on a justement, parce qu'on veut pas finir comme le disait Nicolas, à demander une ouverture de ticket pour pouvoir plus facilement entre guillemets freiner le nombre de questions. Et en même temps, on veut pas non plus démoraliser complètement les personnes d'interrupt et les stresser à mort toute la journée.
D'accord. J'avais deux questions, enfin plusieurs questions d'ailleurs. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. À un moment, vous parliez de la taille de vos équipes qui peuvent être, je crois, chez Maxime, il y a une équipe qui est 5 ou 6 pour gérer un certain nombre de choses. Mais tu parlais de 24-7. 5, c'est faisable du 24-7 avec les astreintes à 5, ou vous avez des...
Très bonne question. Vas-y. L'astreinte 24-7, on considère que 5, c'est le minimum. Même si je cache pas le fait que de temps en temps on se retrouve à 4 à devoir faire du 24-7, c'est plus problématique. Mais à 5 en 24-7, c'est gérable si tout dépend du nombre de fois où on est appelé en temps normal. C'est-à-dire qu'effectivement, si toutes les nuits ça sonne, ça va vraiment être fatigant. Par contre, si ça sonne, on va dire une fois dans la semaine, il y a une personne qui est appelée dans la nuit par semaine, c'est largement gérable. Les autres membres de l'équipe en fait se sont reposés normalement et ont pas eu plus de problèmes que ça à être d'astreinte. Il faut voir aussi que notre astreinte est pas super contraignante. On n'est pas à demander à être dans les 2 minutes connecté. On a 30 minutes dans notre contrat de travail pour répondre. Ça permet de sortir de chez soi et d'aller faire un tour, et que s'il y a un problème, pouvoir rentrer chez soi assez rapidement.
Ouais. Surtout en période de confinement.
Effectivement, en confinement, on n'a plus trop ce problème. Mais effectivement, il y a quand même des contraintes à être d'astreinte. Effectivement, on ne peut pas aller au cinéma, ou alors il faut y aller avec un PC et être sûr de garder une connexion. C'est pas évident.
Ouais. Il y a deux questions, mais qui sont liées en fait. La première, c'est... Voilà, c'est quoi le ratio où on est appelé, enfin combien de fois on est appelé par semaine, enfin ou par nuit, mais avec, j'imagine, inférieur à 1 idéalement, pour que ça soit gérable. Et quand c'est plus, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un système pour forcer la restabilisation du système? Parce que être appelé toutes les nuits, c'est qu'il y a fondamentalement un problème avec le système, et que du coup il s'éloigne de la théorie SRE et il se rapproche de la gestion artisanale finalement.
Alors, on n'a pas vraiment de système automatisé, comme on pourrait voir dans le bouquin où on limite à, je sais, il y a l'histoire du toil, il y a l'histoire du nombre d'alertes. Déjà, ça dépend vachement des équipes. Les équipes qui sont la plupart des équipes, pour être honnête, en tout cas même les équipes d'infrastructure bas niveau comme les miennes, qui sont donc plus critiques et soumises à pas mal d'alertes, et qui peuvent être surtout appelées par d'autres équipes, parce que c'est souvent aussi une source de page la nuit, c'est assez rare au final. Je dirais que c'est autour de une voire deux, quand ça se passe pas bien, alertes dans la semaine, la nuit.
D'accord.
Après, il y a certaines équipes où c'est plus fréquent, clairement. Et là, pour le coup, on essaie de pas avoir des petites équipes pour ce genre de scope. Et pour le coup, oui, ça nous aide à prioriser le sujet de traitement des alertes. Il y a un truc qu'il faut voir, c'est que on dit qu'on bosse avec des méthodologies agiles, qu'on fait du projet comme les développeurs et tout, mais il y a un truc qu'on garde en tête et qui est hyper important, c'est que l'opérationnel et la production restent la priorité sur tous ces autres process agiles, projet, OKR et tout ça. Donc si il y a des alertes qui sonnent toutes les nuits, on peut mettre en priorité numéro 1 de régler le problème plutôt que d'avancer sur les objectifs qu'on s'est donné sur le quarter.
D'accord.
Ça, c'est clairement un truc non négociable et sur lequel tous les SRE peuvent s'appuyer pour, s'ils subissent des pressions, par exemple, d'autres équipes qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités, ils ont toujours la possibilité de dire qu'ils ont la production à gérer d'abord.
D'accord.
Quoi, sachant qu'on organise même ce truc-là avant, hein, c'est dans ce qu'on appelle dans les objectifs trimestriels, donc dans les OKR, il y a ce qu'on appelle le focus factor. Alors ça marche pour les équipes SRE, mais aussi pour les équipes de dev chez Criteo. Je vais expliquer ce qui se passe pour les équipes SRE. Les équipes SRE, on observe au fur et à mesure des trimestres et on planifie d'avoir un certain temps disponible pour le bot projet. Et un certain temps disponible pour et le travail de maintien en condition opérationnelle et l'interruption. Donc voilà, donc on sait déjà prévoir, alors on s'adapte au fur et à mesure, hein, le but c'est pas d'être complètement rigide non plus, mais on sait déjà prévoir limiter le temps projet pour garantir. S'il se trouve qu'on a plus de place, bah on le prend et on fait des projets plus de façon plus importante, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'anticiper.
D'accord. Donc effectivement, dans le mode Google, ils sont un peu plus ayatollah, enfin là-dessus. Ils ont effectivement ce que tu appelles le toil, c'est-à-dire les appels, la gestion manuelle de tâches répétitives, enfin plutôt l'exécution manuelle de tâches répétitives qu'ils appellent toil parce que effectivement ça fatigue, ça prend du temps d'une personne pour le faire au lieu d'avoir cet effet multiplicateur par l'automatisation. Et donc, ils ont cette barrière théorique de 50%, qui mesure d'ailleurs aussi, je crois, je sais pas si c'est par trimestre ou par mois, mais c'est pas instantané, évidemment. Et quand cette barrière, elle est dépassée, ils font des choses. Mais eux, ils ont un truc intéressant, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a une équipe SRE qui est appuyée à une équipe produit en termes de dev. Ils ont cette capacité à aller pousser à l'équipe de dev, en gros, la gestion quelque part opérationnelle pour ralentir l'équipe de dev et puis pour que l'équipe SRE puisse se libérer du temps pour aller résoudre peut-être le problème du système fondamentalement ou trouver une solution, que ça soit filtrer mieux les alertes plus intelligemment ou redesigner le système pour qu'il ne tombe pas toutes les nuits et du coup que ça atteigne ces fameux 50%.
Alors, le fameux give back the keys quand tu estimes que le système n'est pas correct.
Give back the keys, c'est entièrement, non?
Il n'y a pas besoin d'être effectivement 100% non plus.
D'accord.
Chez nous, on essaye d'être un tout petit peu plus collaboratif. On considère que c'est pas genre votre truc marche pas, démerdez-vous avec. Mais par contre, on est effectivement demandeur d'axes de support, entre guillemets, dans les équipes quand on estime qu'on en a besoin. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, qui se prévoit à la fois dans des dépendances, dans les objectifs trimestriels et au quotidien, en particulier quand on monte une équipe sur un incident ou une problématique. C'est jamais nous tout seuls ou eux versus nous, c'est toujours on monte des équipes cross-frontières pour résoudre ensemble le truc, parce que ce qui impacte la prod a des impacts sur les gens qui développent le produit, parce qu'ils sont concernés, impliqués, inquiets et très intéressés à faire en sorte que le système marche, quoi.
D'accord. Ça a été compliqué à construire cette implication ou cet échange, cette collaboration que tu as l'air de décrire.
Moi, j'ai l'impression, mais Maxime est là et chez Criteo depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui était beaucoup là dès le début. Après, ça varie dans le temps selon les personnes, les époques et comment ça se construit. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça bien meilleur en termes de collaboration que d'autres environnements que j'ai connus ailleurs.
Comme on peut voir parfois.
Oui, je pense qu'à Criteo, les développeurs sont assez impliqués, mine de rien, sur les problématiques de production. C'est important pour eux. Je pense aussi qu'on a une bonne partie de nos produits qui sont très demandeurs en termes de performance et de scalabilité, et donc les développeurs sont très sensibilisés au sujet. Et donc, effectivement, la disponibilité est aussi hyper importante, ne serait-ce que parce qu'on a un produit qui fait qu'une indisponibilité, même de quelques minutes, a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est effectivement, ça aide beaucoup parce que les développeurs sont très sensibilisés. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de collaboration. Je pense que on peut aller peut-être plus loin dans la formalisation. Je ne sais pas s'il faudrait aller aussi loin que dans le bouquin de Google, qui est effectivement assez théorique, mais on formalise pas forcément très bien ces problématiques entre SRE et les développeurs.
D'accord. Parce qu'après, il y a la loi de Conway, donc. Si le point d'interaction entre l'équipe de dev et l'équipe SRE, c'est l'interaction entre Nicolas et son père, son équivalent côté ingénierie, voilà. Et si c'est trop loin, il peut y avoir un impact.
Oui, non, heureusement, les équipes se parlent sans passer par Nicolas.
Alors le dernier point pour sortir du quotidien là, c'est que tu dis bon bah il y a aussi prendre des tickets produits, faire du développement. Alors c'est quoi ça? Je fais du dev, je rajoute des boutons dans l'interface graphique. C'est quoi les projets en fait?
Alors alors là franchement ça va vraiment dépendre du type d'équipe, mais quand on est une équipe plus product reliability engineering, ça va être des projets autour de la reliability, le monitoring, la performance. Ça peut être des refactoring de performance, des migrations techniques, de l'ajout d'observabilité, ce genre de choses. Quand on est sur des équipes plus transverses, infrastructures comme les miennes, ça va être effectivement plus des fonctionnalités. Alors pas forcément des boutons dans des interfaces graphiques, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup d'interfaces graphiques justement, mais ça va être des fonctionnalités d'infrastructure. Donc par exemple, je sais pas, je veux pouvoir héberger du HTTP2, je veux pouvoir servir du HTTP2 en plus du HTTP1, je veux pouvoir supporter une nouvelle version de la JVM, ce genre de choses.
D'accord.
Alors après ça, c'est chez Maxime, il y a d'autres équipes à l'autre bout, côté data, où on a fait des feature teams dans SRE sur des produits qui comportaient du front, de la visualisation de données sorties de nos instances Big Data, où effectivement on est allé parler en direct avec produit pour résoudre une problématique d'affichage qui devait être faite, je dirais, au cul des serveurs, parce qu'il y avait des problématiques de temps de requêtage, d'analyse, de proposer un processus pour nos clients dans un navigateur, où là, faire ça localement chez nous, c'était plus efficace que d'avoir des gens qui développent l'interface dans une autre équipe. Une fois qu'on a bootstrappé le projet, on a refilé la main aux équipes qui s'appellent Web Apps chez nous, qui s'occupent des extranets d'une manière générale. Mais voilà typiquement le genre de workload qu'on est capable d'internaliser parce qu'il y a une connexion forte avec un composant d'infrastructure logicielle et où on est capable de prendre en charge en pointe, jusque y compris livrer un module qui s'affiche en production directement.
D'accord, ok. Alors on va passer au concept en fait. Donc on a déjà parlé de la notion de toil et du fait que vous l'utilisez un peu différemment du modèle canonique, on va dire. Il y a d'autres concepts assez fondamentaux dans la définition Google, c'est les service level objective, service level indicator, service level availability. Déjà peut-être expliquer la différence subtile entre les trois. Et puis, est-ce que vous utilisez ça et voilà comment ça se construit ces métriques-là?
Ben, je vais commencer. Alors, dans l'ordre, les gens parlent souvent de SLA très rapidement. Et en fait, c'est la dernière chose qu'on peut mettre en place. Le premier concept, c'est SLO. Donc, c'est pour un composant, un service, quelque chose que je fais tourner soit pour de l'interne, soit pour de l'externe, définir qu'est-ce qu'on veut comme performance. Parce que ça peut être de la performance rapidité, ça peut être de l'availabilité, de la résilience. Voilà. Donc, la définition d'un objectif.
Disponibilité, ouais. La résilience.
Un objectif de résilience, ça peut être de je veux, et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ça, je veux un système où tu me garantis que on est up 100% du temps. Jamais, jamais zéro downtime. Garantie. Voilà. Donc, l'objectif, c'est celui-là. Et un objectif d'un système informatique sans up 100% du temps de façon garantie, en fait, c'est irréaliste. Parce que si jamais un météorite, un super croiseur interstellaire tape la Terre, je peux pas garantir que ce sera up dans l'absolu. Et donc rien que ça, l'objectif qu'on se fixe en termes de performance, de résilience, d'opérabilité, ça va avoir beaucoup d'implications sur quels sont les moyens qu'on doit mettre en œuvre derrière. Donc définir un objectif, je vais prendre quelque chose, voilà, on veut que 99% des requêtes qui tombent sur tel endpoint, que ce soit pour des êtres humains ou pour des machines, répondent en dessous de 10 millisecondes. Voilà, ça c'est un objectif. C'est donc déjà c'est ça. Après, il y a les SLI, les indicateurs. Une fois qu'on s'est mis un objectif, c'est comment on mesure ces choses-là. Comment on... C'est quoi c'est... Où est-ce que tu le mesures? Et ça peut être. C'est important de les définir parce que ça peut être très différent. Par exemple, sur des temps de réponse, est-ce que c'est le temps de réponse vu de l'utilisateur, où qu'il soit dans le monde, ou est-ce que c'est le temps de réponse vu au cul du serveur? Et déjà, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, la façon dont on le mesure peut faire bouger les lignes. Et ensuite, une fois qu'on a ça, un objectif, des outils pour le mesurer, donc le Service Level Indicator, on peut avoir un agreement sur ces bases-là avec un client auquel on rend ce service. Alors, ça peut être un client en direct, quand c'est un client interne, c'est facile. Après, ça peut être un représentant du client, en particulier quand on a des choses B2C où le client, c'est tout le monde, et on a quelqu'un qui fait product owner pour représenter le persona du end user et qui dit sur ces objectifs là on a ces indicateurs là pour les suivre, est-ce qu'on est d'accord que c'est bien ça qu'on veut, et c'est ça l'agreement, en fait, c'est de dire j'ai défini mes objectifs en interne, j'ai défini mes indicateurs, je les propose à mon client et mon client accepte que c'est quelque chose qui est raisonnable pour lui, pour que la satisfaction end user soit correcte, soit maximum, ou pour que juste dans un empilement de services de couches, le service global jette des contraintes sur les choses qu'il utilise.
D'accord. Il y a une couche supplémentaire au SLA, c'est toute la partie légale et compensation. Du coup, c'est... En fait, le product owner, il a à jouer sur deux tableaux. C'est un, quand est-ce que je commence à vraiment énerver mes clients et qu'ils seraient prêts à partir. Et la deuxième, c'est quelle portion de ce que j'ai pris, je rembourse, qui peut aller au-delà de ce qu'on a récupéré en argent, d'ailleurs, selon les contrats. Et du coup, ça, c'est toute une dimension supplémentaire du risque métier au-dessus.
Tout à fait.
Et dans le livre, ils disent n'en mettez pas 100 000, parce qu'en fait, au final, ça va pas être très très réaliste pour vous de les suivre. Et deuxièmement, concentrez-vous sur votre client, sur ce qu'il voit, en fait. Vous essayez de faire ça, vous, d'avoir des SEO où il y en a peu et qui sont concentrés sur l'expérience client?
Alors pour être très honnête, je pense que c'est un sujet assez difficile. C'est un sujet qu'on a poussé il y a plusieurs années fortement, notamment effectivement grâce au bouquin SRE et à des anciens SRE de Google qui nous ont pas mal aidés. Le truc qui est difficile, c'est que on a poussé ce sujet sous un angle assez technique et vraiment de la perspective SRE et pas du tout, et très éloigné du business en réalité. Ce qui fait que les SLA qu'on arrivait à définir avec nos clients internes, on avait beau les définir, nos clients internes eux-mêmes n'avaient pas forcément de SLA avec les clients externes de Criteo. Et donc en fait, c'était très dur à tenir, voire... Donc en fait, on a beaucoup de SLI, on a des SLO, mais on a du mal à vraiment avoir des SLA. je pense que effectivement les recommandations du bouquin sont assez justes. Il faut peut-être essayer d'en avoir pas trop, et il faut probablement essayer de les définir au niveau du produit global de l'entreprise. Et c'est là où ça devient très difficile. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux équipes produits qui sont effectivement assez éloignées du sujet, que en fait c'est ça qui est intéressant de discuter, et typiquement leur poser la question combien de temps d'indisponibilité seriez-vous prêt à accepter dans le prochain quarter, disons. Ça, c'est une question qui est très difficile parce que, comme disait Nicolas, par défaut, quelqu'un qui est dans le business va dire bah zéro. Et il va falloir réussir à trouver un chiffre au-dessus de zéro acceptable.
Ouais.
Et ça c'est pas évident. Ce qui fait qu'on a beaucoup passé du temps, et ça, on a plein d'indicateurs, on a beaucoup d'outils techniques pour mesurer la disponibilité ou la performance ou enfin, plein de choses sur nos systèmes. Le problème, c'est de le faire remonter jusqu'au produit final pour vraiment que ce soit utile.
Ouais. Et l'autre truc, tu le décris, quand on parle du produit final, il y a peut-être au minimum 5 composants avec des SLO chacun. Là. Par exemple, là, on parlait de,
exactement,
de Hadoop. Donc là, il y a le hardware, au-dessus, il y a Hadoop. Au-dessus, il y a l'analyse. Au-dessus, il y a le site web qui affiche le truc. Et du coup, les maths sont assez draconiens là-dessus. C'est que quand on met en série des systèmes, en fait, les fameux 9, les 99,99%, là, on les multiplie. Donc, en fait, ils baissent, oui. Ils baissent hyper vite. Et donc, c'est très difficile à...
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la redondance les fait augmenter aussi de manière quadratique. Donc, souvent, on résout ça avec de la redondance. Mais effectivement, de toute façon, on ne fait pas, nous, ces maths. Hein. On ne va pas définir le SLO de la barrette de RAM pour remonter jusqu'à l'affichage d'une pub. Ça, c'est, je ne sais pas si des gens font ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut on a des SLO sur les services macro, donc effectivement sur Hadoop, sur les load balancers, sur les applications principales, les applications web principales.
Je vais utiliser, c'est sûrement une fallacie, comme on dit en anglais, là, mais je ne me rappelle plus le nom français, mais mettons, tu dis, voilà, j'ai mon service, et ensuite j'ai Hadoop derrière. Je mets un load balancer devant, mais le load balancer aussi, la stack elle-même, ouais, elle ne va pas être disponible 100% du temps.
Ouais.
Du coup, quelque part, je réduis potentiellement la disponibilité dès que je rajoute un morceau. Quoi.
Ouais, et ça, c'est vrai.
On a peur de rajouter, non ?
Non, plus tu augmentes la complexité de ton système, plus tu introduis des sources potentielles de panne.
Donc le SLO théorique doit forcément diminuer, oui.
Ouais. Après, le load balancer, il est là pour justement faire la redondance dont tu parlais. C'est-à-dire,
Il faut deux load balancers, et dans ce cas-là, effectivement, on peut compenser. Mais ce sera jamais parfait. Mais c'est pour ça que les composants d'infrastructure les plus bas, dans les couches les plus basses, ont des besoins de fiabilité démentiels. Enfin, quand on a un problème sur notre backbone réseau, c'est tout Criteo qui s'effondre. Donc effectivement, il faut que ce système-là soit ultra fiable.
D'accord. Et donc du coup, vous n'êtes pas non plus trop ayatollah des SLO parce que effectivement vous n'avez pas jusqu'à la barrette de RAM, etc. etc. Comment vous avez fait vos... Ah oui, et puis tu parlais de vous mesurer beaucoup. Donc, vous avez une approche empirique en disant, bah là, voilà, sur la dernière année, on est à 99,9. Ou alors est-ce que la valeur initiale de cet SLO, qui est déjà un contrat, en fait, qui est un contrat avec soi-même en tant qu'équipe, mais c'est déjà un contrat, vous mettez une valeur un peu arbitraire et puis après, vous essayez d'avancer. Parce que c'est un peu comme la bourse, le performance passée.
On s'appuie beaucoup sur les performances passées, pour être honnête, pour définir le SLO. Hein. Et ouais, on fait pas de... En fait, on n'a pas vraiment suffisamment de base, à moins que les clients aient des demandes extrêmement précises, on n'a pas suffisamment de base pour calculer autre chose que observer le passé et se mettre un objectif en fonction.
D'accord. Ok. Donc, on a ces objectifs, et puis donc, on va essayer de ne pas les dépasser. Parce que quand on les dépasse, c'est qu'on est moins disponible. Du coup, il y a deux concepts intéressants. Le premier, c'est la notion de budget d'erreur. Je ne sais pas si vous utilisez ça et comment vous... Voilà, ça vous parle ça ?
Ouais, ça nous parle, mais on n'a pas mis en place un processus formalisé avec un indicateur, tu vois, de décompte de combien de bugs tu as le droit au quotidien. Mais par contre, oui, on est plus prudent sur des composants qu'on sait sensibles, sensibles au sens erreur prone ou enfin sujet à plus d'erreurs, à potentiel plus d'erreurs plus élevé ou qui ont un gros impact chez nous. Il y a des périodes de l'année où on essaye de réduire la volatilité de nos applications parce qu'on sait que c'est des événements clés. Mais de là à avoir un système hyper formel, je crois qu'il y a 2 ans, il y a une équipe opérationnelle chez nous qui a essayé de mettre en place un système où on comptait effectivement avec des systèmes de points quand il y avait tel type d'incident qui se passait. Alors on avait le droit de faire ça et tout. Ça ajoute beaucoup de complexité, beaucoup de formalisme. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Alors peut-être que dans des gros, encore plus grosses organisations, c'est nécessaire parce que les gens se parlent moins et qu'il faut formaliser. Nous, on a quand même une certaine fluidité entre les différentes équipes, qu'elles soient opérationnelles ou de développement produit, pour que ça se fasse en bonne intelligence et sans avoir besoin d'un indicateur où tu comptes les points, quoi. Donc ça, oui, on le fait, mais pas de façon aussi formalisée que indiqué dans le bouquin de Google.
D'accord. Donc en fait, c'est tes fameux trimestres des revues, j'imagine qu'ils sont cross-fonction, où on dit, bah là, on n'est quand même pas super top, et du coup, on va essayer de ralentir un peu et stabiliser ce qui va être ramené plus proche ou au-dessus de ton SLO attendu.
Alors, oui, on le fait au niveau du quarter, mais on le fait même à beaucoup plus court terme. Hein, quand une équipe se rend compte que le service qu'il gère est effectivement tombé en rade 3 fois d'affilée en 2 semaines, clairement ils vont faire plus gaffe et essayer de faire plus d'efforts les 2 semaines qui suivent. C'est un truc qui se fait naturellement, mais c'est vrai que c'est pas très formalisé.
Plus gaffe, c'est parce que la plupart des erreurs sont humaines, quelqu'un qui a oublié la closeware et
non, le coup de la closeware quand même, ça arrive
c'est vraiment... arrivé à moi, mais ça arrive à des gens que je...
Mais oui, faire plus gaffe, ça veut dire peut-être, par exemple, tout dépend du contexte, mais si on est typiquement, hier c'était le Singles Day en Asie, on évite de toucher au système sur notre plateforme asiatique pendant ces quelques jours, parce que c'est un jour où on fait beaucoup de business en Asie par exemple, donc c'est ce genre de choses.
D'accord.
Après, on est capable stratégiquement de décider que pendant un trimestre, une équipe va se concentrer sur une tâche plus technique, moins produit pour stabiliser et gagner en fiabilité, et on est capable localement de façon tactique de sprint en sprint quand c'est pas urgent, voire en mode DEFCON 1 et code rouge chez nous quand il y a un gros problème, de déprioriser des choses dans le sprint courant pour se focaliser sur un problème urgent ou sur quelque chose d'important dans le sprint d'après.
D'accord. La notion de ce qu'on appelle le blast radius, donc l'impact d'une erreur, c'est quelque chose. Là, tu parlais de la plateforme asiatique. Ça veut dire que vous êtes plus libre sur les plateformes non asiatiques, du coup, en tout cas à cette date-là. C'est une forme de blast radius, puisque vous allez dire si l'Europe tombe, au moins ça n'impacte pas l'Asie. Vous allez être plus fin que ça, j'imagine, mais voilà, c'est des choses.
Oui. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, on le formalise pas, mais oui, on fait très attention à ça. C'est souvent... d'ailleurs, les pires incidents sont les incidents worldwide. On essaie d'en avoir le moins possible parce que on fait énormément de déploiements progressifs. On cloisonne énormément les choses, que ce soit effectivement par continent ou par data center ou par produit. On a aussi des systèmes de canaries, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé en permanence. Enfin, quasiment en permanence. Quasiment tout déploiement est fait de manière progressive avec, en général, sur un ensemble de serveurs ou un ensemble d'instances réduit, comme un système de canaries, sur un data center particulier, sachant qu'on on a 6 data centers aujourd'hui sur le trafic web, 2 data centers sur la partie Hadoop. Donc, on peut se permettre de faire un déploiement avec un blast radius très, très réduit au début et d'étendre le scope après.
Dans le détail, la rollout chez nous, c'est toujours, ça commence par du canary, donc quelques serveurs dans un pool pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet induit non prévu. Ensuite, on a un autre type de serveur qui s'appelle des sentinelles dans les pools qui sont légèrement déséquilibrés au niveau du load balancer pour prendre un tout petit peu plus de charge que leurs copains, pour que si jamais une nouvelle version apporte fait franchir un étape de charge qui va poser problème dans le futur proche, il pète en premier et qu'on puisse réagir plus tôt. Et effectivement, après, on va faire pool par pool, data center par data center, sachant qu'on a trois plateformes et plusieurs data centers par plateforme. Et ensuite, on va pouvoir généraliser.
D'accord. D'ailleurs, il y a un concept qui s'appelle aussi le burn rate, qui, je pense, est assez compliqué à faire en vrai, mais c'est lié au dire, bah tiens, là, je suis en train de consommer mon budget par rapport à mon SLO, donc je passe de 100% à 99,999, et puis ça descend, hein, et puis on se dit, bah, si ça continue sur la même lancée, je vais aller au-delà de mon SLO, du coup, je vais avoir une rupture de contrat. Là, la sentinelle, visiblement, elle est là pour justement anticiper, de voir ça avant. C'est le burn rate, c'est quelque chose que vous manipulez ou ça me paraît compliqué comme outil, en fait.
Ouais, c'est ultra formalisé. On l'utilise absolument pas comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on fait intuitivement là où ça nous a posé le plus de problèmes par le passé. Donc, effectivement, un problème de capacité ou de performance, c'est des trucs sur lesquels on fait gaffe, mais à ma connaissance, on n'a pas de formaliste du tout. On n'utilise pas le mot burn rate en interne.
Non, clairement pas.
C'est la fin de la première partie de cette interview. La suite au prochain épisode d'interview avec des détails sur la gestion d'incidents, ce qu'ils appellent les runbooks, c'est-à-dire les standard operating procedures. Voilà, des choses autour de l'interaction avec l'équipe engineering et puis les entraînements au cas réel, voilà, et pas mal d'autres choses. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.